Alors, le Centre FUI présente jusqu'au 12 août l'exposition immersive Particules d'existence. Alors, on peut y voir des installations interactives et multisensorielles de réalité virtuelle. Et parmi les 10 œuvres interactives, j'en ai choisi une qui nous plonge littéralement dans l'Égypte ancienne par l'intermédiaire d'un jeu intitulé Discovery Tour by Assassin's Creed. Et je reçois donc le directeur créatif Jean Guédon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, par quel chemin doit-on passer pour devenir directeur créatif de réalité virtuelle?
C'est une bonne question. Je pense que tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent aussi à ce genre de position. Dans mon cas, en fait, moi, ça a été passé par l'immigration ici à Montréal il y a plus de 20 ans. Travailler d'abord dans les jouets traditionnels avant de faire le saut vers l'interactif, justement à Ubisoft en 2005 maintenant. Et puis ensuite, d'avoir eu la chance de travailler dès le début sur cette franchise magnifique qui est Assassin's Creed, dont la mission est vraiment de donner accès à l'histoire au plus grand nombre. Et donc depuis 2006 maintenant, je suis directeur créatif, j'ai dirigé deux jeux, celui consacré aux pirates, Black Flag, qui était sorti en 2013, il y a bientôt 5 ans, et donc Origins, sorti à l'automne dernier, en 2017, dont on a fait cette expansion éducative, effectivement, qui s'appelle le Discovery Tour, qu'on peut retrouver au Centre FUI.
Et à l'origine, Ubisoft, qui prend pied à Montréal, quel était le but visé dans la direction de cet organisme-là?
Donc en fait, Ubisoft, c'est une compagnie française de jeux vidéo qui a été fondée en 1986, donc en France. Et puis, la compagnie s'est développée, a commencé à créer ses propres jeux et a eu besoin de talents en plus de l'extérieur et a décidé de s'établir en 1997, donc il y a plus de 20 ans maintenant, ici à Montréal. Ça a été vraiment un des pionniers des grosses compagnies qui se sont installées ici et qui, depuis, participent justement à l'émergence et au développement d'une scène très vivante qui bénéficie du pool, en fait, du bassin de talents que Montréal procure, avec d'un côté des formations en art très poussées et de l'autre des formations aussi en informatique, en programmation également très poussées. Et le jeu vidéo étant vraiment à la jonction de ces deux expertises-là, c'était le lieu parfait.
Justement, il y a 2600 employés actuellement, 62 nationalités. Comment vous recrutez ces gens-là? Quelles qualités premières ils doivent avoir?
Je pense même qu'on a dépassé les 3000.
Pardon, 3000,
les 3200, c'était les derniers chiffres qu'on a. En fait, on regarde le talent d'abord et avant tout, la motivation, l'expérience, bien sûr. Et puis après, il s'agit de faire des équipes qui sont les plus diverses possibles, justement, pour enrichir vraiment nos contenus, de ne pas avoir une vision trop monolithique, avec aussi un mélange de seniors, de gens qui ont fait leurs preuves, qui sont capables de mener à bien des projets d'envergure, mais aussi enrichi du sang frais justement de juniors, de jeunes qui arrivent, qui eux ont la rage et le couteau entre les dents. Et puis cette association-là, ce mix-là, produit des bons résultats, et c'est aujourd'hui le plus gros studio de jeux vidéo au monde qu'on a ici à Montréal, qui est en charge d'énormes franchises pour Ubisoft et donc c'est qui a fait leur preuve.
D'ailleurs, la moyenne d'âge, je crois, est de 35 ans.
Je pense que c'est, oui, quelque chose comme ça, effectivement. Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit que le stéréotype du développeur de jeux jeune comme ça, qu'on imagine un peu encore étudiant, etc., évolue. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui, ceux qui avaient 25 ans à l'époque, ils en ont 45 aujourd'hui. Et donc, même la démographie interne du studio évolue sans cesse et se reflète aussi dans nos productions.
Donc, même le virtuel n'empêche pas de vieillir.
Mais absolument.
Et actuellement, il y a la maison mère qui est installée à Montréal, Point Saint-Viateur. Il y a un studio à Québec, il y a un nouveau studio au Saguenay, et un à Piémont. Est-ce que c'est là qu'on envoie les récompenses, les bons employés pour être privilégiés par la nature?
Alors, en fait, Piémont, c'est donc le studio hybride. Ça, c'est un cas un peu particulier puisque c'est un studio indépendant qui, lui, est consacré pas aux jeux vidéo mais aux effets spéciaux pour le cinéma, qui marche très bien d'ailleurs, qui est réputé, et que Cubi en fait a fait rentrer dans son giron en acquérant des parts il y a plus d'une dizaine d'années maintenant.
Et vous avez des liens aussi avec 11 universités, de quelle manière?
Donc en fait, c'est intéressant. Sur Assassin notamment, je peux parler d'Assassin qui, à travers son traitement de l'histoire, justement, a intéressé de plus en plus d'étudiants en histoire ou en didactique, par exemple, c'est-à-dire sur l'apprentissage de l'histoire. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la puissance du jeu vidéo comme outil de transmission, justement, de savoir à travers ces expériences interactives-là. Et donc, on s'est régulièrement fait, depuis une dizaine d'années, contacté par des étudiants en maîtrise qui, par exemple, veulent savoir comment on traite l'histoire, comment quelle est notre démarche derrière ça, qu'est-ce qu'on peut en retirer véritablement. Et au fur et à mesure de ces années-là, des liens sont tissés, plus ou moins poussés. On a notamment eu la chance de voir arriver le professeur Marc-André Etier de l'Université de Montréal, qui est lui en prof en didactique de l'histoire, donc qui étudie les outils de transmission des connaissances historiques, et qui a de lui-même proposé de faire une étude en fait sur justement le mode découverte, le Discovery Tour qui est au Centre Phi, pour voir si véritablement ça pouvait être utilisé comme outil d'apprentissage. Donc nos relations avec les universités sont comme ça à divers degrés. Des fois il s'agit de répondre à des questions pour documenter des recherches. Mm-hmm. D'autres sont un peu plus poussées de l'ordre de, par exemple, il y a la Forge qui est une initiative aussi d'Ubisoft qui vise à faire des partenariats avec les universités de Montréal, notamment sur des recherches plus académiques en intelligence artificielle.
Mm-hmm. Et parlez-nous de Indie, qui est une compétition avec des studios indépendants.
Oui, donc la série Indie, en fait, c'est une initiative conjointe d'Ubisoft et de la Banque Nationale qui vise à promouvoir justement les talents indépendants locaux. Il y en a une aussi pour Toronto, où Ubisoft est aussi un studio. Et donc là, c'est un concours qui est ouvert à tous les studios indépendants, donc n'importe qui peut s'inscrire et puis présenter son jeu. Donc là, on a un jury après de professionnels d'Ubisoft et de gens de la Banque Nationale qui regardent un peu les propositions en termes de contenu, de faisabilité, de plan business. Et puis on essaye après, les lauréats bénéficient en fait d'un mentorat à Ubisoft et la Banque Nationale, et puis ensuite une couverture médiatique un peu plus grande.
Et vous faites occasionnellement des expositions à la Maison Mère sur Saint-Viateur. Est-ce que ça fait partie du mandat d'Ubisoft?
Disons qu'Ubisoft, c'est une grosse maison créative, c'est-à-dire qu'on fait des jeux, on est sur des gros jeux la plupart du temps, mais à la base, avant tout, on est des créateurs. Et donc cette relation avec le milieu créatif, quel qu'il soit, est toujours important. Et donc dans le cadre en fait du réaménagement des locaux qui est en cours progressif justement au PEC, là au coin Saint-Laurent-Saint-Viateur, il y a effectivement eu l'aménagement d'une galerie qui permet d'avoir comme ça des expositions tournantes d'artistes locaux, qui soient ou non employés d'Ubisoft. D'ailleurs, c'est pas forcément réservé, c'est une partie qui n'est pas à l'interne en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confidentialité en jeu, et ça peut être accédé comme ça assez librement.
Alors on fait une petite pause musicale avant d'entrer dans l'exposition qui se tient actuellement au Centre Phi. De retour avec mon invité Jean Guédon pour parler de l'installation immersive au Centre Phi. Donc, Assassin's Creed est une marque d'un jeu interactif. On pourrait traduire par Credo de l'Assassin ou Credo Assassin.
Oui.
On y propose quoi exactement dans ce volet-là?
Dans l'exposition?
Non, pas nécessairement. Dans Assassin's Creed. Là.
Alors, le jeu en lui-même, c'est un jeu d'action-aventure. C'est-à-dire qu'on propose des grands mondes ouverts où le joueur contrôle un avatar et peut se déplacer où il le souhaite, comme il le souhaite, grimper au bâtiment, courir à cheval, nager, grimper sur les montagnes, etc. Et se battre, notamment à l'épée, durant des missions. Donc ça, c'est vraiment la promesse de base du jeu Assassin's Creed. Et à travers le concept en fait de notre univers, on a le loisir de revisiter l'histoire, puisqu'on a dans un un layer comme ça, une couche fictive, dit qu'on avait accès via notre ADN aux mémoires génétiques de nos ancêtres, et que donc à travers l'ADN on pouvait revivre dans une machine spéciale, revivre la vie de nos ancêtres. Et à travers donc cet artifice, grâce à cet artifice, on revisite des périodes historiques depuis plus de 10 ans maintenant. Donc on a visité comme ça la troisième croisade, donc en Terre Sainte, en 1191. Ensuite on s'est déplacé vers l'Italie de la Renaissance. On est même allé faire un tour à Constantinople en 1512 et rencontrer Suleiman le Magnifique. Évidemment, en Italie, on avait rencontré les Medici, Léonard de Vinci, Machiavel, les Borgia, et j'en oublie beaucoup. Ensuite, on a fait la Révolution américaine, donc là, Washington notamment, l'âge d'or des pirates avec Barbe Noire, enfin tous les plus grands pirates des Caraïbes, la Révolution française, le Londres victorien, et puis donc le dernier opus en date, c'était l'Égypte antique, plus précisément en fait l'avènement, l'accès au trône en fait de Cléopâtre. Qui nous semblait très intéressant et important aussi comme moment de l'histoire. Donc là, on parle de moins 50 avant Jésus-Christ à peu près. L'Égypte est dirigée déjà depuis près de 300 ans par les Grecs, en fait, dans la foulée de la conquête d'Alexandre. Et donc, c'est cette jeune femme de 19-20 ans qui a été exilée par la cour, qui lui préfère clairement son frère de 13 ans, qui est bien plus manipulable, qui va essayer de reprendre le pouvoir, notamment, et y parvenir, notamment avec l'apport, en fait, dans la balance de Jules César, qui débarque sur les traces de Pompée.
Et pour nous montrer la vie quotidienne et les divers métiers de l'époque, on voit, ça prend beaucoup de documentation. Est-ce que vous avez engagé des historiens spécialisés sur l'Égypte ancienne?
Absolument, tout à fait. C'est vraiment le mode de travail, en fait, qu'on a établi pendant ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on a à la maison, maintenant, on a en fait Maxime Durand, qui est un historien dédié. C'est un employé d'Ubisoft. Il est avec nous sur la marque Assassin's Creed. Et lui, en fait, nous sert de point de contact. Donc d'abord, il fait une première passe de recherche, lui-même, pour donner ça à l'équipe. Évidemment, tous les membres de l'équipe, quels qu'ils soient, quels que soient les métiers, que ce soit programmeur, designer, animateur, spécialiste du son, sont bien évidemment invités à se documenter par eux-mêmes. Mais ensuite, on structure encore plus cette recherche-là via Maxime, qui, lui, nous permet d'être en contact, en fait, d'être mis en contact avec des égyptologues, des historiens spécialistes. Donc, on a travaillé, par exemple, avec Evelyne Ferron, qui est spécialiste, elle, justement, de l'Égypte gréco-romaine, qu'on peut entendre d'ailleurs tous les dimanches matins à la première chaîne de Radio-Canada. Elle fait la chronique Histoire, mais aussi Perrine Perron, qui était spécialiste des hiéroglyphes, et puis 5-6 autres comme ça, qui nous ont permis d'avoir une connaissance plus approfondie de cette période-là, de bien comprendre comment les gens vivaient, quels étaient le contexte politique, économique, etc. Et ensuite, c'est notre travail d'artiste et de créateur de rendre ça vivant et de recréer ce monde aujourd'hui disparu.
Et le jeu se compose d'un écran et de manettes et d'écouteurs. Ça implique évidemment divers métiers. Il y a des dessinateurs qui ont dessiné tous les mobiliers, l'architecture et les personnages. Il y a aussi des captures de mouvement. Est-ce que vous avez des acteurs qui bougent dans un studio et vous captez le mouvement pour que ce soit le plus réel possible?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous dis, on fait des mondes virtuels en 3D, c'est-à-dire que ce ne sont pas des décors comme au théâtre ou au théâtre de marionnettes. Ce ne sont pas des façades. S'il y a une maison dans le monde, c'est une maison sous tous ses angles.
En 3 dimensions.
Et donc, on peut tourner autour, grimper sur le toit, etc. Donc, on a effectivement des illustrateurs au départ qui nous font des images fixes pour nous inspirer. Ensuite, il y a des modeleurs qui, eux, en fait, font de la sculpture virtuelle, font des modèles 3D qui peuvent avoir, du coup, ce volume-là qu'on place dans ce grand espace qui est le monde. Et ensuite, on vient rajouter de la vie. Et pour la vie, effectivement, là, on a donc, on a la même chose, c'est-à-dire on a des modèles d'animaux, des modèles d'humains, de grecs, d'égyptiens, de civils, de militaires, etc. Et ces modèles-là sont ensuite animés. Donc là, effectivement, on fait appel aux animateurs. Soit animés à la main, soit on capture le mouvement, comme vous l'avez dit, dans les studios. Donc il y a un gros studio, le plus gros studio de capture de mouvement à Montréal, ici, et au Shop Angus. Mais on en a ici au PEC, c'est-à-dire Saint-Viateur-Saint-Laurent, où là, ce sont des acteurs à qui on dit, effectivement, ce qu'ils doivent faire comme mouvement. Ces mouvements-là sont captés par les machines. Et sur les squelettes qui bougent, on vient, en fait, mettre la peau virtuelle du modèle. Et donc, le même mouvement peut être fait comme ça par un civil grec, un civil égyptien. Il s'agit juste de changer le costume du personnage, en fait.
Ah bon. Et il y a, j'imagine, quelques scripteurs qui vont écrire les scénarios. Est-ce que c'est d'abord l'histoire qui mène au développement, ou c'est l'intérêt historique et l'intérêt virtuel, puis ensuite le scénariste va écrire selon...
En fait, on fait les deux en même temps.
Ah ouais?
C'est vraiment un mix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi la période historique qu'on veut visiter, évidemment, on se renseigne sur les événements et les personnages importants qu'on va y rencontrer, qu'on veut voir. Donc, en l'occurrence, nous, sur ce qui nous concernait là, on voulait voir Cléopâtre, on voulait voir Jules César, on voulait voir Pompée, etc. Et donc, on a écrit avec les scénaristes effectivement une histoire qui nous permet de jouer dans les zones grises de l'histoire tout en respectant les moments importants. Et à côté de ça, ben, cette histoire-là, on l'a fait évoluer aussi en fonction de ce que nous, on est capable de réaliser. Et donc ça, c'est le jeu. Ce qui est intéressant avec ce que les gens peuvent voir au Centre Phi, c'est justement qu'on a réutilisé ce monde-là, vivant, cette retranscription de l'Égypte de l'époque, pour donner un tout nouveau contenu, qui est cette fois du contenu académique. Donc là, pour le coup, on ne fait pas, il n'y a pas du tout de fiction, on ne parle pas d'histoire, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de combat. Ce qu'on a mis, c'est 75 tours guidés comme si on était au musée. Donc on fait venir le musée chez les gens via un jeu vidéo.
Donc c'est éducatif.
C'est éducatif. C'était effectivement le premier mandat qu'on s'est donné avec ce mode-là dédié, qui a été gratuit, donné gratuitement pour tous les joueurs, ceux qui ont le jeu. Mais si vous êtes intéressé par ce mode-là et pas par le jeu, et que vous avez un ordinateur récemment moderne, on ne parle pas non plus d'une bombe absolue, vous pouvez vous le procurer seul, c'est-à-dire visiter l'Égypte en touriste et avec les tours guidés sans avoir le jeu.
Et en ce qui concerne les sons et la musique, est-ce que tout est fait par synthèse ou s'il y a de vrais musiciens et des sons réels qui sont utilisés?
Il y a beaucoup de sons réels, effectivement.
Ah ouais?
Oui, c'est-à-dire qu'on a toute l'équipe audio. Elle va, de la même manière que les scénaristes vont se documenter sur les personnages et les événements historiques, que les animateurs vont se documenter sur les activités du monde, les personnes travaillant l'audio vont faire la même chose sur le son. Par exemple, quels sont les animaux de cette région-là. Le fait de savoir qu'il y a beaucoup de vent en Égypte, que le vent en fait souffle constamment, et c'était vraiment c'est une plaie. Donc là, et ensuite de recréer ces sons-là. Donc on a des sons qui sont créés là dans le studio. Au studio à Montréal. Mais après, faire une étude aussi sur les instruments musicaux de l'époque, sur les flûtes, sur les instruments à cordes, etc. Et ensuite trouver des gens qui sont capables d'en jouer et de les enregistrer en vrai.
Mm-hmm. Et chaque participant, joueur, peut diriger l'enquêteur avec une espèce de filet lumineux qui va dans différentes directions. Ça veut dire qu'il y a différents scénarios aussi.
En fait, ce qu'on a fait, c'est que chaque tour, quand vous acceptez de démarrer un tour sur, par exemple, la momification ou la fabrication du pain et de la bière ou les pyramides, eh bien là, on allume en fait un chemin lumineux comme ça dans le monde 3D pour vous guider. C'est comme un fil d'Ariane, littéralement. Et puis là, c'est une invitation à suivre ce chemin lumineux-là. Vous êtes libre de vos mouvements. Et le long de ce chemin-là, c'est là qu'on a placé les stations qui, elles, vont mettre l'emphase, le focus sur des points très précis de choses qu'on a intégrées dans le jeu. Donc des éléments, que ce soit des objets, des façons de faire des gens ou des documents ou des bâtiments. Et là, à chaque station, on a rehaussé ça. Donc c'est comme un audio guide. Donc il y a un narrateur ou une narratrice qui vous parle de ce que vous voyez. Et en plus, on a rajouté à chaque station un visuel qui provient de divers musées ou bibliothèques. On a plus de 700 visuels comme ça pour agrémenter le jeu.
En deux mots, est-ce qu'il y aura une suite à l'Égypte ancienne ou vous passez complètement à un autre sujet?
Alors là, je peux vous parler du passé. Hein. Comme on l'a dit, dans l'animus, on peut revivre les mémoires génétiques, mais pas aller dans le futur. Honnêtement, ça, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on voit déjà comment ça réagit. Et puis, si s'il y a lieu, on communiquera plus en détail là, dans le futur.
Alors, il faut se rendre au Centre FI pour expérimenter les œuvres de réalité virtuelle dont Discovery Tour by Assassin's Creed sur l'Égypte ancienne. C'est jusqu'au 12 août et c'est au 407 rue Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal. Et je recevais le directeur créatif Jean Guédon, accompagné de son attaché de presse. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Alors, Pierre, on poursuit vraiment avec cette exposition Particules d'existence au Centre FI. Tu souhaiterais commenter quelques autres œuvres?
Oui, en fait, oui. Il y a 10 œuvres au Centre FI de réalité virtuelle, inspirées d'une part par les changements climatiques, la navigation spatiale, l'exode des masses. Donc, je n'ai pas tout expérimenté à cause du manque de temps de ma part, mais je vous parle de certaines. Il y a Chat Room, qui est conçu par la grande Laurie Anderson, qui est à la fois musicienne et artiste visuelle, ainsi que Xinxian Wang. Donc, c'est une durée de 15 minutes. On s'assoit sur un banc, puis on nous place un casque sur la tête avec deux manettes. Et là, on peut pointer les manettes dans diverses directions d'un bâtiment en béton, évidemment, virtuel, dont les murs sont entièrement couverts de dessins dessinés à la craie, d'où le titre Chalk Room. Alors, c'est un voyage dans le monde du dessin. Il y a aussi de Cosmic Sleep, où là, on se couche entre deux grilles métalliques, il ne faut pas être claustrophobique, et on fait là un voyage vers la comète 67P, et le sens du toucher, de l'ouïe et de l'odorat sont sollicités dans cette œuvre-là, grâce à une couverture d'éléments chauffants et refroidissants. Alors, quand je suis allé, ils n'étaient pas prêts encore, ça ne fonctionnait pas. C'est d'une durée de 4 minutes. Il y a Fistful of Stars qui permet d'explorer le cosmos à travers des lentilles du télescope Hubble et de s'approcher de la nébuleuse d'Orion et aussi d'assister à la naissance et à la mort d'une étoile. Alors, c'est 5 minutes, ça c'est très beau, je l'ai expérimenté. Il y a Chorus aussi qui est un dessin animé dans lequel on entre dans la peau de guerrière pour affronter des monstres grâce à des rayons laser et des cristaux, donc ça fait un peu bande dessinée. Mais c'est très, très ludique et très coloré. Et In the Eyes of the Animal, alors là, on découvre une forêt à travers les yeux de 4 espèces animales.
Oh, wow!
Et tout le plancher...
C'est une bonne idée.
Oui, tout le plancher de cette salle-là est recouvert d'humus et de feuillage réel là, sur le plancher.
Donc, on sollicite plusieurs sens.
Oui, tout à fait.
Wow!
Et il y a The Sun Ladies, ça, j'ai moins aimé. C'est une unité de combat formé par des femmes qui ont fui l'Irak envahi par l'État islamique en 2014. C'est d'une durée de 7 minutes. C'est le seul qui parle en fait de guerre. Et Three Hunger Wawawa, qui là on découvre la vie secrète d'un séquoia géant en pénétrant à l'intérieur de l'arbre. On voit la sève qui coule tout autour de nous. Et grâce à un gros casque qu'on tient sur sa tête, parce qu'il se tient pas tout seul, c'est vraiment comme une grosse citrouille qu'on se met sur la tête. Et on est assis aussi sur une bûche. Alors, c'est assez impressionnant. Et finalement, il y a Eyes of Dog. Ça, c'est Behind the Scene. Donc, c'est la visite du studio d'animation de Wes Anderson, le grand cinéaste.
Ah, oui.
Et il y a là 7 ou 8 chiens qui viennent vers nous raconter le scénario. Alors, c'est assez amusant. C'est en anglais. Et finalement, Roxanne, ce sont
des photos. Ben oui, avec l'artiste, le photographe vedette Michel Huneau.
C'est ça. Il y a 32 images d'immigrants demandeurs d'asile au Canada. Et les visages sont cachés par des manteaux de couleurs vives et par des écouteurs aussi. On peut entendre les récits de ces migrants-là.
Ça pique ma curiosité au plus haut point,
cette
participation de Michel Huneau.
Évidemment, celui sur l'Égypte dont on vient tout juste de parler. Donc, 10 installations fort intéressantes.